Vous écoutez
RMC.
On va débriefer cette victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Brest. 4 buts à 2. Herrera, Mbappé, Gueye, Di Maria ont marqué pour le PSG contre des buts d'Honora et de Mounier du côté du stade brestois. Et vous le savez, quand on débriefe un match, eh ben, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ouais.
Et pour m'accompagner ce soir, Frédéric Piquion. Rebonsoir Frédéric.
Rebonsoir.
Et Jonathan Macardy qui vient de nous rejoindre dans le studio, qui a remplacé Kevin Diaz qui était avec nous dans le RMC Football Show. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Bonsoir Jonathan.
Salut les gars, plaisir de vous retrouver.
Un plaisir partagé. On va commencer avec les 3 points de Fred Piquion.
Eh ben moi, mon premier point sur le match de ce soir, un PSG au suspense, hein, comme un peu la semaine dernière, sauf qu'on a réussi. Ils ont réussi à faire le dos rond et marquer ce quatrième but avec une espèce de contre-attaque éclair et un bijou de Di Maria. Mais on voit que quand même, ils sont toujours en rodage, toujours en préparation. Et le seul petit bémol, c'est quand même Paris prend quand même pas mal de buts. Mon deuxième point, c'est un Derzakarian qui voulait 4 joueurs, mais je trouve que la deuxième mi-temps de Brest a été plutôt cohérente. C'est dommage parce que là, en première mi-temps, je pense qu'ils ont voulu, ils ont voulu attendre le nul. Peut-être que c'était une stratégie de la part de Derzakarian et de ses troupes. Mais quand en deuxième mi-temps ils ont commencé à jouer, ben on a vu qu'ils avaient quand même de la capacité à embêter le Paris Saint-Germain. Et mon troisième point, c'est plutôt le geste de la soirée, la blessure d'Icardi.
Ouais, effectivement, un peu ridicule.
La blessure, la bêtise, appelez-la comme vous voulez. C'est quand même extraordinaire ce qu'il a tenté. Comment il se fait mal, c'est Je sais pas comment on peut définir cette chose-là.
Moi, je me demande s'il se fait vraiment mal ou s'il a envie de sortir. Les 3 points de Jonathan Macardy.
Le premier point, c'est un pari très moyen, mais c'est un pari qui a 9 points. L'année dernière, après un début de saison un petit peu compliqué dans le jeu et pas forcément très abouti sur le terrain, le Paris Saint-Germain avait perdu des points qui lui avaient été fatales en fin de saison. Là, pour l'instant, je trouve que c'est un rodage qui est parfait. Et quand j'ai dit rodage, c'est-à-dire qu'il va y avoir des imperfections, que Paris n'est pas encore le pari qu'on va voir au printemps, mais c'est un pari qui engrange les points et c'est l'essentiel. Mon deuxième point, c'est que je pense que Brest peut avoir des regrets. Je pense qu'avec un petit peu plus d'ambition et de pression, ils auraient pu éventuellement arracher le point du match nul. Mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera dans la suite de l'after. Et mon troisième point, vu qu'on parle du Paris Saint-Germain, j'ai envie de parler de leur arch-némésis du FC Barcelone, qui est un club qui sombre dans le ridicule. Après les attaques contre la gestion du Paris Saint-Germain de la part du président, on apprend que la banque Goldman Sachs leur fait un prêt de plusieurs millions d'euros pour assurer la survie des finances d'un club exempt. Écoutez, voir Goldman Sachs prêter de l'argent à une entreprise qui a des comptes totalement peu structuré, instructuré et malsain. Je trouve que c'est très 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 perturbant et ça me fait penser à pas mal de choses très graves qui sont passées dans l'économie mondiale récente. Et du coup, je fais un peu long, mais j'ai juste envie de dire au président du FC Barcelone de ne plus jamais parler du Paris Saint-Germain et de la fermer.
Merci Jonathan. Mes 3 points, ce sera le sérieux du Paris Saint-Germain qui effectivement a pris 9 points sur 9 et je vois un peu plus d'investissement face à ses adversaires dits moyens que la saison dernière, ce qui leur avait coûté ces fameuses 8 défaites qui leur ont probablement coûté le championnat. Ça c'est plutôt dans les bons côtés. Moi j'ai noté les limites brestoises. C'est vrai qu'on a vu un bon Brest, notamment en seconde période, mais hormis la ligne d'attaque, je trouve que la ligne défensive est très fébrile et je suis pas sûr que le retour de Christophe Herrel réglera tout. Je pense que effectivement Michel Derzakarian a bel et bien besoin au moins de 2 ou 3 recrues, notamment dans le secteur défensif. Et puis voilà, j'aime bien l'attitude des coiffeurs du Paris Saint-Germain, puisqu'il faut les appeler ainsi. Ils sont amenés à être des remplaçants dans la saison quand toutes les stars seront là. Eh bien, je trouve qu'ils justifient par leur implication qu'ils pourront au fil de la saison rendre des services, rentrer dans l'effectif de rotation. Et je trouve ça intéressant de voir des Ganagay, de voir des joueurs comme Thilo Kehrer qui a été très moyen jusqu'à présent, mais qui a été pas mal ce soir, Diallo, montrer qu'ils étaient eh bien à la hauteur pour disputer la Ligue 1 et pour jouer le jeu de la concurrence. Voilà messieurs, je vous propose qu'on prenne Mathis qui nous a appelé au 32-16. Salut Mathis, comment ça va?
Salut à tous, bonsoir.
Bonsoir Mathis, salut. Bienvenue dans l'After Mathis. Qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire 4 buts à 2?
Ce que j'en ai pensé, je suis content de la victoire. Comme disait Jonathan, cette année au moins on démarre avec 9 points. Ça c'est le principal. Maintenant, je reste quand même inquiet sur le plan défensif, surtout le côté gauche, parce que Diallo, je sais que c'est pas son poste, mais il y a des erreurs. Ça serait juste des erreurs de placement, je pourrais comprendre. Là, c'est des erreurs qui sont assez bêtes. C'est des erreurs de débutants, de formation. Kimpembe, il a l'excuse du City. Je trouve que ça commence à faire ça commence à faire beaucoup là. Il a des errements défensifs qu'il n'arrive pas à rattraper. On va pas toujours se cacher derrière son côté guerrier, son côté c'est un enfant de la maison, etc. Va falloir qu'il hausse un petit peu le niveau. C'est vrai que devant ça allait malgré le fait qu'on voit toujours pas un système bien défini.
C'était bizarre ce soir. Hein.
C'est étrange et je veux bien qu'il manque beaucoup de joueurs, mais on peut s'entraîner à faire quelque chose, avoir des circuits de passe, avoir des automatismes qui serviront pour quand il y aura les titulaires. Et justement, quand ces joueurs-là qui sont censés être remplaçants, quand ils rentreront sur le terrain, ils sauront quoi faire avec la balle, où se retourner. Et là,
t'as raison, Mathis, parce qu'il y avait beaucoup trop de permutations dans les milieux de terrain. Une fois c'était Gay qui venait chercher, une fois c'était Verratti, une fois c'était Herrera, une fois c'était Wijnaldum. En fait, tu savais pas qui pouvait recevoir le ballon, devait donner sur circuit de passe qu'on tant cherché et tant décrié depuis un moment donné. Hein,
depuis qu'il est arrivé,
Pochettino. Oui. Eh ben, on le voit pas parce qu'il y a trop de permutations dans le milieu de terrain. Et c'est souvent Verratti qui vient chercher le ballon. Il a touché 123 ballons.
Tu sais, en fait, quand j'ai vu cette organisation qui était grosso merdo sur le papier en démarrant le match, un losange.
Moi,
je me suis dit, j'ai envie de voir ça parce que je pense avec les joueurs qui ne sont pas là et j'essaie d'imaginer l'équipe. J'essaie de voir le puzzle qui peut être construit par Pochettino. Je me dis en losange avec Neymar en 10 à la pointe du losange derrière Mbappé et Messi, avec au milieu de terrain Verratti qui serait accompagné de Wijnaldum qui reculerait à la place d'Herrera et Paredes devant la défense. Ça ressemble à une équipe qui est très 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 cohérente.
Pas sexy en
sur le papier. C'est très sexy pour moi ce 4-4 de losange comme ça avec ces joueurs là et puis évidemment en défense Kimpembe, Marquinhos ou Marquinhos Ramos et à le retour de Bernat, tu dis tu as quand même une sacrée équipe. Ce qui m'inquiète, c'est que même si l'idée est bonne, dans le jeu ça a été de la bouillie. On va pas se cacher.
Exactement.
Ça a été une bouillie immangeable.
Le gros problème ce soir, c'est que dans un système comme ça qui part alléchant comme le disait Jonathan, le dépositaire du jeu doit être dans les cadres du milieu du losange. Là, le dépositaire du jeu ce soir, c'est Hakimi. C'est l'arrière droit. Il y a quand même un problème. Je veux dire, si le ballon ne passait pas par lui, rien ne se passait offensivement. C'est compliqué quand même d'évoluer comme ça tout au long de la. Enfin, ça ne sera pas tout au long de la saison parce qu'il y aura quand même Neymar et Messi seront sur le terrain. Forcément, ils toucheront plus le ballon. Mais on peut pas. Quand ils sont absents, je suis désolé. C'est sans manquer de respect à Brest. C'est Brest. Il y a 11 ans, si on nous donnait ces joueurs-là, on avait déjà la meilleure équipe du championnat.
Bien sûr.
Sans avoir Messi ou Neymar, et ça aurait suffi très largement. Je veux
même
dire,
déjà ce soir,
Neymar était sur le terrain. On dominait plus. Les équipes à petit calibre.
Mais la différence, Mathis, c'est le plan de jeu. C'est juste ça. Et là, ça a été illisible ce soir. Et moi, je persiste à penser que voilà, pour l'instant, Pochettino n'a rien à faire.
Quand les autres ils vont rentrer, alors après, on va voir bien sûr que Messi il joue un peu comme il veut.
Ça sera l'arbre qui cache la forêt.
Neymar il joue un peu comme il veut. Mbappé il joue un peu
sur le
côté gauche. Mais c'est vrai que si ces trois-là déjà, bon, on va pas dire qu'ils vont pas faire les efforts parce que on va encore dire ouais.
Mais c'est vrai pourtant l'année dernière on a vu qu'ils faisaient pas les efforts, Fred.
Oui, mais là je pense qu'ils les feront.
Hein, cette année il s'est passé un truc, ils ont mangé la potion magique.
Non, c'est pas une question de potion magique, Jonathan. C'est qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience. Et je pense que, malgré tout, il y en a un qui va peut-être moins courir que les autres. Il s'appelle Messi, parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Et donc, les autres vont peut-être courir pour lui
peut-être,
et pour l'équipe.
Peut-être.
Mais quand même, je me dis que s'ils ont envie de gagner quelque chose collectivement, il va falloir qu'ils le fassent de toute manière. Parce que, effectivement, tu ne pourras pas gagner si les trois joueurs, voire deux joueurs, ne courent pas dans cette équipe.
Mathis compris. On parle d'efforts faits par les joueurs. Là, vous parlez de joueurs offensifs. Défensivement, vous êtes inquiet. Après 4 matchs la saison dernière, le PSG avait encaissé 2 buts. Là, après 4 matchs officiels en comptant le trophée des champions, c'est 6 buts encaissés.
Ouais. Ouais. Oui. Non, mais c'est beaucoup, c'est énorme. J'en ai parlé pendant le match.
Regardons le nom des défenseurs qui sont alignés. Abdou Diallo, on nous l'a vendu comme un futur espoir, comme un grand espoir du football français. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est très moyen. J'ai du mal à lui voir les qualités qu'on nous vend depuis le début et qui justifierait le montant de son transfert. Kimpembe, notre auditeur, a tout dit. Si c'est moi qui le dis, les gens vont tomber dessus. Mais pour moi, Kimpembe, c'est un guerrier, c'est un joueur qui est exemplaire, mais c'est pas un défenseur de très haut niveau. Il fait pas partie. On m'a déjà posé la question et c'était facile de répondre. Il est pas dans le top 10 des défenseurs mondiaux, ni dans le top 15. c'est facile de trouver 15 meilleurs défenseurs en Europe. Donc c'est un joueur qui est moyen, qui a beaucoup de progrès à faire. En revanche, il a une marge de progression. C'est pas dit que là, tu vois, dans 4-5 ans, on se repose la question qu'il soit pas parmi les meilleurs défenseurs au monde. Pour l'instant, il a une très grosse marge de progression et les progrès, je les vois pas. Kerrer, bon, bah, on a tout dit, c'est pas la peine de tirer sur l'ambulance. Et évidemment, t'as un joueur de classe qui vient d'arriver en la personne d'Hakimi. Évidemment, si tu commences la saison avec ces trois joueurs-là sur les quatre de ta défense, à savoir Diallo, Kimpembe, Kerrer, c'est quand même d'une part pas très complémentaire.
Non mais Fred,
c'est d'une part pas très complémentaire. D'autre part, ça manque quand même de talent et de qualité technique. Et enfin, ça manque surtout d'expérience. Donc voilà, moi je suis très circonspect. Je pense pas que Sergio Ramos va résoudre tous les problèmes. La chance du PSG, c'est d'avoir un joueur comme Marquinhos qui est lui pour le coup dans les trois meilleurs défenseurs au monde. Je pense qu'il y a débat là-dessus. Dans le top 3, top 5, Marquinhos il y est. Mais
ils sont un peu dans de la suffisance tout simplement. Défensivement, regarde toi tu prends un but sur coup de pied arrêté. Normalement, tu dois jamais prendre ce but là. C'est parce que t'es un peu apathique dans ta surface de réparation. T'es pas présent au duel parce que tu te dis bon, on est à 3, tranquille, je suis plutôt pépère. Ensuite, tu fais Strasbourg, tu prends deux buts contre Strasbourg. C'est incroyable que tu prends deux buts contre Strasbourg. Tu peux pas, tu joues Strasbourg, tu joues Troyes, tu joues Brest. Sur ces trois matchs, tu fais 5 buts. C'est pas normal, pardon.
Oui, mais ça, t'as pas tort, oui.
Mathis, tu partages tes inquiétudes défensives ou pour toi, ça va se régler avec l'arrivée de Marquinhos, de Ramos et
se régler l'arrivée de Marquinhos, ça sera toujours mieux, mais je suis assez d'accord avec Fred, là, pour le coup, il y a aussi beaucoup de suffisance parce que quand on voit sur le deuxième but, de base, les Parisiens sont en supériorité défensive. Et ils arrivent à se faire prendre dans leur dos quand on voit le retour défensif de Diallo et de Kimpembe et même de alors il me semble que c'est gay mais je suis pas certain. C'est pas possible. Et l'alignement il est catastrophique. Ils reviennent c'est à peine plus que de la marche et de base ils sont 5 contre 3 Brestois, c'est le Brestois qui arrive à récupérer le ballon, c'est pas logique, il y a forcément de la suffisance aussi un manque de talent sur certains postes et Diallo qui est pas à son poste non plus mais je veux dire oui. Il manque du talent, mais en face, c'est pas Benzema, c'est pas Bale, c'est
ah bah ça on est d'accord, on est
entre
d'accord.
Guillemets que Brest quoi.
Oui mais bon donc, c'est déjà du bon niveau pour Thilo Kerrer non.
Ouais non mais par contre
ah,
pour
le coup,
pour la semaine dernière
il est moins mauvais qu'habituellement
avec lui je fais que de l'insulter mais franchement il fait un début de saison.
Il est pas mal son début de saison.
Pas trop mal.
Il est correct.
Merci beaucoup Mathis d'avoir été avec nous. Mathis. On te souhaite une très belle saison avec le Paris Saint-Germain. Supporter brestois, vous nous appelez pour débriefer cette rencontre, la défaite de votre équipe, 4-2, mais qui a quand même montré certaines choses un peu par intermittence probablement. Jamel est supporter du Paris Saint-Germain, lui. Il vient de nous appeler également au 32-16. Bonsoir Jamel, comment ça va ?
Bonsoir, ça va ?
Bah ça va bien et toi ?
Salut Jamel.
Ouais, super, salut Jonathan, salut Fred.
Bienvenue dans l'after, mon poulet. Je fais des familiarités parce que Frédéric Piquet me fait rire.
C'est Timothée qui nous fait rire ce soir.
Sur dire pourquoi il nous fait rire. En tout cas, quel est ton avis, Jamel, sur cette rencontre.
Sur un petit peu tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai trouvé le premier quart d'heure du PSG, il était très bon, très agréable, il y avait du rythme et tout. Mais en fait, dès qu'ils mettent un but. Ils perdent un peu de rythme et ça a pu se voir dans la deuxième mi-temps qui a été vachement soporifique tout en gestion. Et en fait, on se faisait manger pas mal de comptes par Brest qui faisait beaucoup d'attaques en transition. Et franchement, on a changé de milieu. On a eu 3 milieux différents en 3 matchs. Donc on sent que c'est un petit peu le début de saison. On a pu voir Strasbourg, Brest, Troyes, etc. On va faire un petit laboratoire. En fait, c'est la continuité des matchs amicaux, quoi. Danilo Herrera contre 3.
Exactement, mais alors dans ce cas Jamel, est-ce que c'est pas rassurant de voir un Paris Saint-Germain tout en mettant en place son petit laboratoire comme tu dis prendre 9 points sur 9?
Ah oui, on va pas cracher dans la soupe, c'est très bien, c'est plus que bien. Mais je sens que ils cherchent encore la bonne formule au milieu malgré tout, hein. Ce qui nous rend un petit peu fébrile dans les transitions, on a un manque d'automatisme flagrant. Mais j'aimerais aussi revenir sur l'analyse de Jonathan le match de Strasbourg de la semaine dernière.
Ouais.
Tu dis que Kerrer est à l'arrêt. Moi, j'étais au parc. Il n'était pas du tout à l'arrêt. Il a même, bizarrement, c'était lui qui était plus rassurant que
Kimpembe. Le match contre Strasbourg. Le match contre Strasbourg, c'était après la première journée, il me semble.
Non. Tu reverras.
Ok.
C'était une semaine. Tu commences à avoir Alzheimer, hein, Jonathan.
Un petit peu, ouais, à mon âge, t'imagines, je prends trop de coups dans la tronche. Non, mais oui, oui.
Non, je t'ai dit, j'étais au parc pour venir, il tenait la barre derrière. Moi, ce que je reproche à Kimpembe, c'est qu'il a juste l'attitude du guerrier, comme vous dites, l'attitude du patron dans la gestuelle. Mais quand il n'y a pas Marquinhos, il est perdu, ça se sent au niveau du placement, il y a beaucoup de déchets, mais c'est un truc de fou. Il a des absences et des sauts de concentration, comme sur le but de Brest. Il recule de 10 mètres. Tu vois ? Il fait recul France, ça me fait un peu penser au match contre la Suisse. Le 3-3, le troisième but, c'est de sa faute. Hein. Il est passé au travers des filets au niveau des...
Mais contre Strasbourg aussi, hein, il n'a pas été...
Il n'a pas été bon.
Hein. Tu sais ce qui m'a inquiété face à Strasbourg pour Kimpembe, après je te répondrai sur Kerrer. C'est surtout dans les duels, c'est quand même censé être son point fort, les duels à Kimpembe. Et face à Strasbourg, je l'ai trouvé très fébrile, notamment de la tête. J'ai trouvé qu'il était justement, qu'il surjouait, mais qu'il n'était pas...
C'était fou.
Ah bah, on a vu la même chose. Alors en revanche,
non, mais Kerrer... c'est toujours la même chose qu'on parle quand on parle de Kimpembe, c'est que dans les gros matchs, il est tout le temps là, il faut le dire vrai aussi. Mais quand il joue un peu, voilà, contre des matchs un peu plus tranquilles, où il se dit je vais faire mon petit contrôle, même on l'a vu contre 3 sur le premier match, je sais pas si vous vous rappelez, quand il fait sa espèce de cagade et que l'autre après il part au but, c'est du Kimpembe tout craché. Donc c'est sur ça aussi qu'il faut qu'il évolue et qu'il faut qu'il s'organise.
Je pense pas que ce soit juste de la concentration, Fred, hein.
Mais à contrario, si je peux revenir sur quelques points.
Ce serait quoi alors de plus?
C'est un manque de talent, tout simplement, je pense.
Non, ça peut pas te dire un manque de talent quand tu joues contre le Barça.
Tu sais,
on dit qu'il a 8 sur 10.
Je veux juste répondre à Fred. Je vais répondre très, très, très facilement. C'est que contre le Barça, t'es obligé, tu vois, de défendre un petit peu en reculant. Et donc, justement, de jouer beaucoup de duels et beaucoup d'un contre un. Donc, c'est vraiment, en mettant, c'était une question d'impact physique. Sur l'impact physique, il peut s'en sortir. En revanche, quand tu as un peu plus de responsabilité dans le jeu et qu'on va te demander d'être un petit peu plus à l'aise techniquement, d'un peu plus soigner ta relance, de faire un petit peu plus attention, là c'est difficile pour lui. Et juste pour répondre à un autre auditeur, oui, Kerrer a pas été catastrophique contre Strasbourg, j'ai probablement un petit peu exagéré. En revanche, même
Jamel,
contre Strasbourg,
Jonathan, on a la conférence de presse de Mauricio Pochettino en direct, on va écouter sa deuxième réponse au micro de Xavier Grimaud.
Est-ce que vous préférez gagner 4-2 ou 2-0 le match avec sans encaisser de but et...
vous avez entendu la question de notre confrère.
Bueno. Primero de todo, prefiero ganar los partidos.
Je préfère avant tout gagner les parties.
Después, si puedo elegir un resultado, elegiría no
si je pouvais choisir le résultat, je choisirais de ne pas prendre de but.
Pero esto es el fútbol, comienzo de la temporada y no a nadie estamos
Mais
viendo.
Mais le football est comme ça, on débute la saison.
Que no está siendo fácil para nadie.
Il y a aucun match facile pour personne et on ne peut pas forcément choisir le résultat. Voilà pour la réponse. Je te laisse terminer, Jonathan, ta réponse à Jamel.
Ce que je voulais dire, Jamel, c'est que face à Strasbourg, je l'ai trouvé un petit peu mieux qu'à l'accoutumée. J'ai trouvé notamment qu'il avait été justement lui concentré dans les duels et notamment sur quelques retours défensifs relativement bien inspirés. Après, le problème, encore une fois, je ne sais pas si tu as vu la même chose vu du stade, mais c'est que techniquement, dans les phases de relance et dans les moments où il a la balle au pied, c'est quand même, ça reste quand même très 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 limité. Comment ?
Moi je vais...
Attends, Jamel, dis-moi.
Ouais, je t'ai dit, quand il a la balle au pied, des fois, on dirait qu'il a une patate chaude au pied, ça je suis d'accord avec toi. Mais c'est les deux pareils, en fait. Mais sinon, si je peux revenir juste sur un dernier point, c'est la bonne surprise de début de saison. Pour moi, c'est Herrera. C'est le seul milieu qui a joué tous les matchs. On sent la confiance et avec ce but, en plus, il ramène je trouve qu'il ramène une sorte d'intelligence tactique qu'on voyait pas forcément l'année dernière. En début de saison,
Je te rejoins totalement, Jamel. Je trouve que Herrera, c'est un type totalement surcoté parce qu'il a l'effectif du Paris Saint-Germain à côté de lui, parce qu'il y a des joueurs de très grand talent.
Sous-côté,
parce que c'est un joueur de devoir qui applique les consignes, qui fait ce qu'on lui demande, qui ne rechigne jamais à faire des efforts et quand l'équipe va moins bien, est un mec qui fait la gueule, qui est pas content, qui tape dans les mains, qui essaye de remobiliser ses coéquipiers.
Je faisais une caméra isolée sur lui au parc pendant 5 minutes, c'est aberrant le nombre de fois qu'il replace ses coéquipiers. C'est un chien de garde, il gueule sur tout le monde, il est là, il cavale partout à gauche, à droite, il fait les glaces, il revient. Mais franchement, la bonne note, mais franchement, c'est un choc thermique pour moi, c'est Hakimi, hein. Quelle activité.
Très
peu de déchets, beaucoup de courses. Mais quand tu passes de Florenzi à Hakimi, tu passes,
C'est le jour et la nuit.
Aucun doute.
Mais moi, ce que je voulais,
un choc thermique, il faut se mouiller la nuit, comme dirait l'autre.
Ce que je voulais juste dire par rapport à certains joueurs comme Kerrer, comme Herrera, et même Gueye, voire même Diallo, ce sont des joueurs qui sont potentiellement sur la liste des transferts du Paris Saint-Germain.
Mais oui.
Et le fait qu'ils jouent encore ce soir, c'est pour, la, pour les montrer aussi. Il y a, ouais, il y a eu trois matchs de championnat, s'il faut les montrer, s'ils sont bons, tant mieux, on va essayer de les vendre les plus chers possibles. Mais à partir du 1er septembre, ça va être quand même, enfin après la trêve internationale, ces joueurs-là.
C'est une vitrine des Galeries Lafayette, quoi.
Voilà, ça va être quand même très dur que ces mecs-là soient sur le terrain.
Là, 400 000 euros par mois, il n'y en a pas beaucoup qui vont regarder les vitrines. Hein. Moi, quand je passe devant Dior, je regarde. Hein.
C'est pareil. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est ce que je peux, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, on verra bien. Il y en a qui peuvent rentrer dans la rotation. Il y aura des matchs, il y aura plus de.
Il y aura besoin de quand même, d'un effectif profond. Hein,
voilà, il faut quand même un effectif.
On n'a pas parlé d'un point, c'est Navas qui est au premier but.
Ouais. Ah, j'en étais sûr.
Il est pas du tout exempt. Mais moi, je sens qu'en fait, c'est l'ombre de Donnarumma. Il sent que.
Ah, mais là, en plus, Donnarumma, il était là aujourd'hui, c'est chaud.
C'est fou.
C'est la situation qui est. Moi, je pense que.
Navas, il est sur la 1-1. Il y a Donnarumma qui lui met des pains forts, file de gauche.
En fait, il a des belles comparaisons.
T'as raison.
Belles paraboles, Jamel.
Jamel, t'as raison. Mais le truc, c'est que tu vois, c'est une opportunité, Donnarumma. Je pense qu'il fallait le faire parce que à l'âge qu'il a, tu peux t'assurer un poste de gardien de très haut niveau sur quasiment une décennie. C'est parce qu'il a, il est quand même très jeune. Mais tu te mets un problème. Voilà.
Moi, je pense qu'ils auraient dit.
Mais c'est un problème positif. Il faut dire la vérité.
Oui, oui, c'est positif,
bien sûr.
Comme disait hier dans l'affaire, parce que j'écoute l'affaire tous les jours dans ma voiture.
Bravo.
Yvan Lemay, l'agent, il disait que Donnarumma, normalement, c'est 80 millions. Et son salaire, il a 6 millions, il prend 12 millions. Il a pris une prime à la signature. Mais là, à la base, c'est comme si on l'avait payé 20 millions, quoi. Et c'est donné.
Ouais, ouais, ça reste.
Ouais, sur les années où qu'il a signé. Ouais.
Et puis surtout pour un gardien.
Ça reste un très bon coup. Merci beaucoup, Jamel, d'être venu dans l'after. Merci pour tes petites comparaisons. Ah, bah, avec plaisir.
Vas-y.
Là, tu l'as vu sur Skyrock, toi.
Il est là présent. À Mehdi, un très bon ami à moi, très grand joueur de futsal. Et à Walid Acherchour, qui est avec vous maintenant.
Ah, absolument. Il intègre l'équipe de l'After.
Je vous donne un conseil, hein. C'est le futur Roten. Il a un boulard gros comme ma tête. Comme ça, je vous l'aurais
dit. C'est noté. C'est noté. On va lui garder l'extrait. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Jamel. On continue à débriefer cette rencontre. Messieurs, on va peut-être parler un petit peu de Brest. On a parlé beaucoup de Paris, comme souvent.
Bah, est-ce qu'on a un éditeur de Brestois aussi à chaque
on
fois?
On a un auditeur brestois. Il y a Jean-François qui était au stade. Salut Jean-François, comment ça va?
Salut à tous, vous m'entendez?
Très bien,
François.
Parfait, Jean-François.
Quelle joie de vous dire l'ambiance du stade brestois ce soir, c'était le feu.
On a
c'était
vu ça.
Feu. On a pris 4-2, mais on joue pas mal et puis c'est le début.
Non, mais t'as joué en deuxième mi-temps, c'est ça qui est dommage.
On a pas mal joué, on a des bons joueurs. Déçu par notre gardien qu'on nous disait une star. Je suis un inconditionnel de Gauthier Larsonneur et je suis déçu.
Ouais.
Mais est-ce que tu as trouvé que ton équipe a bien joué en première mi-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu penses que c'était une tactique ou pas? Parce que moi je pense que c'était une tactique.
Ouais, Derzakarian, il aime bien jouer Paris comme ça avec un bloc bas. Donc je pense qu'on a attendu un peu, on les a un petit peu regardés, on a été un peu fébrile en première mi-temps et l'ambiance des tribunes les a réchauffés pour la deuxième.
Ouais, mais c'est surtout le but qui les a réchauffés juste avant la mi-temps.
Surtout,
c'est important de marquer dans ces moments-là. Et après, sur la deuxième mi-temps, je les ai trouvés un tout petit peu plus entreprenants. Et même sur la fin de mi-temps, c'était extraordinaire. Mais quand vous avez marqué le deuxième but à 3-2, c'était
fou à 3-2.
Ah ouais, mais c'était magnifique.
Pour nous, on avait gagné. le 3-3, ça aurait été la victoire pour nous.
Ouais. Jean-François, qu'est-ce que tu penses de Derzakarian, toi, depuis son arrivée? Est-ce qu'il t'a convaincu? Est-ce que tu veux lui donner du temps?
Bon, il faut lui laisser le temps, ça fait que 3 matchs. Il a tenté pendant les matchs de préparation son dispositif à lui qu'il a l'habitude, mais visiblement on ne sait pas le mettre en place à Brest. On a un défenseur central qui monte en puissance, c'est Brendan Chardonnay, qui est un joueur exceptionnel.
Ouais, aujourd'hui, ça a été compliqué.
Ça a été très dur aujourd'hui.
Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon du tout. C'est quelqu'un qui est très sympathique, qui est super, et il est
en dessous.
C'est lui qui écoute l'after.
Ouais, non, hein. Pas l'after, elle écoute
Moscato.
Voilà, il est très sympa, il est marrant. Par contre, ça, faut quand même, désolé, faut dire les choses en face. Ça reste un joueur moyen de Ligue 1. Il sort des bons matchs, des très bons matchs avec le Stade Brestois de temps à autre. Mais ça reste quand même, tu vois, face au très haut niveau, ça reste quand même un joueur limité. On peut pas s'attendre à beaucoup de choses non plus. Ce qu'il fait, c'est déjà très très bien.
Il y a l'engagement.
Oui, mais tu sais, moi, je pense que le problème que tu as eu sur le match, c'est que, ouais, Fred a bien résumé. T'as joué qu'une mi-temps et il y a un joueur qui est pas encore dans son assiette, c'est qui pour moi est votre joueur, quasiment un de vos joueurs les plus importants pour l'équipe de l'équipe.
C'est Romain Fèvre.
Non, c'est non. Un de mes joueurs favoris de Ligue 1, c'est Aris Belkebla. Voilà, je pense que c'est ta plaque tournante, il fait un travail de l'ombre. Alors techniquement, il a fait beaucoup de progrès, mais ça reste encore un petit peu à parfaire. Mais en termes d'activité et en termes d'équilibre défensif, il est quand même très important. Et là, il revient de blessure, c'est ça?
Voilà, il revient de blessure. Voilà. En abattage de boulot, il court le cheval. Hein.
ouais, il est. Et là, quand il est un peu moins bien, pour moi, c'est un petit peu le métronome de ton équipe depuis plusieurs saisons, même quand tu étais déjà en Ligue 2. Donc voilà, et puis tu as bien résumé aussi, Jean-François. Moi aussi, je suis fan de Gauthier Larsonneur. Et voilà, bon, bah écoute, il va partir, hein, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que je te dis ?
Il reviendra plus fort.
Il va pas partir ?
Ah, je sais pas pour le moment.
Bah, tu penses pas qu'il est sur le banc parce qu'il est en instant de départ ?
Après, je pense que, voilà, enfin, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de jouer les seconds rôles. Il a de l'ambition.
Mais tu penses pas que si Bizot a été installé comme ça, 3 jours après être arrivé titulaire, c'est parce que Larsonneur est en instance de départ? Tu penses pas qu'il y a quelque chose qui se trame?
Je sais pas. Il avait signé jusqu'en 2023. Il était bien et il était pas mal. Un peu critiqué l'année dernière. Comme toute l'équipe, on pourrait la critiquer. Mais, je sais pas. C'est quelqu'un quand même qui est attaché au club, qui a été formé au club. C'est un mec du cru, hein.
Tu vois, par exemple, au lieu de prendre Paul Lopez, moi, si j'étais Longoria, j'aurais été chercher Gauthier Larsonneur.
Ah bah, qui est fan depuis de Marseille.
Oh, et, ouais, en doublure de Mandandana, non?
Il y avait un débat sur RMC sur Paul Lopez cet après-midi. C'est vrai que Larsonneur aurait été autre chose.
Fred?
Non, j'aurais pas été chercher Gauthier Larsonneur. C'est peut-être un bon gardien, mais il a pas le... Je pense pas qu'il soit. Non, même pas la taille. Je pense pas qu'il soit assez charismatique pour aller à l'Olympique de Marseille.
Ça joue aussi. Après, tu as raison pour un gardien.
Pour moi, c'est pas assez.
Il est très jeune, hein. Il a le charisme, ça peut venir aussi avec un peu d'expérience.
Mais pour l'instant, ouais, mais non, mais oui, mais on l'a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on dira, ouais, il a changé, il a mûri, etc. Et puis surtout, avant que Marseille aille le chercher, il vaut mieux qu'il reprenne sa place de numéro 1 déjà à Brest, qu'il fasse une saison pleine.
Oui,
merci beaucoup Jean-François d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On est ravis d'avoir vu cette
continuation.
Très belle soirée à l'Obé. On souhaite une belle saison avec le Stade Brestois. À très vite. Messieurs, on a commencé l'avant-match en expliquant que Michel Derzakarian avait demandé 4 joueurs. Quand vous voyez l'effectif, les changements à disposition de Michel Derzakarian, ça vous semble légitime ce besoin urgent de recruter?
Il faut recruter quelqu'un au milieu de terrain pour suppléer un petit peu, parce qu'on voit que quand Belkebla n'est pas là, il y a un c'est quand même un peu compliqué. Il faudrait éventuellement recruter un défenseur central. Après,
sachant que RL doit revenir de blessure.
C'est ça, mais même quand même,
oui, on en a 3 seulement. Hein. Ouais.
Et par contre, devant, moi, je trouve qu'ils sont bien. J'aime bien les devant, l'attaque, je la trouve très convaincante.
Peut-être un numéro 9 quand même pour suppléer Mounier de temps en temps.
Mais Cardona peut jouer à ce poste-là.
Ouais, c'est vrai aussi. Mais j'aime bien, moi, quand il est quand même sur un côté, il va vite, il percute. Il peut rentrer sur son pied. Honora, il va très vite aussi. Dommage que quelquefois il fait des mauvais choix, mais je trouve que c'est un joueur aussi percutant, qui peut mettre à mal une défense aussi. Mais moi, je vois les quatre devant, le 4-2-3-1 comme il est là. Je pense que c'est vraiment bien. Fèvre en numéro 10, c'est bon, c'est très bon.
Mais c'est vrai qu'il y a pas une profondeur de banc incroyable. Tu parlais par exemple de la ligne offensive. Bon, il y a la possibilité Philippe Otto. Il y a le jeune Rafiki Saïd qui est un joueur des Comores mais qu'on a encore peu vu. Jérémy Ledouaron, ça reste un peu limité. Hein.
Ça reste un peu limité. Il faut quand même de l'expérience dans cette en Ligue 1. On le voit quand on manque de. C'est soit il faut de l'expérience. Et donc individuellement, t'as besoin de ces joueurs-là, ou soit collectivement, t'es déjà tellement rodé que cette expérience, on peut la mettre un petit peu derrière, mais il en faut quand même.
Et probablement qu'on attendra un peu plus aussi de gérer Uronen, qui n'a pas été grandiose aujourd'hui, en tout cas qui a été en difficulté. Voilà pour le débrief de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. Stade Brestois qui s'est incliné à Francis Leblay 4-2 dans un match très spectaculaire. Nous, on revient dans un instant pour débriefer l'interview de Didier Deschamps.